Les marchandes de sable, il était une fée. Ondine, de Claudine Glot et Armel Gaulm.
Ich bin jo gar nicht müd. Ich will nicht schlafen. Ich sing lieber ein Lied. Das Mädel mit dem Sand kommt vielleicht noch hit. Das Irl an der Wand sagt, es ist schon Zeit. Ich will nicht schlafen.
Encore vêtue de sa belle robe de noces, le visage grave, Ondine faisait face à Hildebrand. Tu as promis au prêtre d'être mon époux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Seulement voudras-tu toujours de moi, après avoir entendu ce que je dois te dire ? Hildebrand tenta de protester, mais la jeune femme poursuivit avec fermeté. Écoute-moi maintenant. Lorsque tu as traversé la forêt obscure, tu as pu apercevoir quelques-unes des innombrables créatures qui, à côté des hommes et des animaux, peuplent le monde. Il en existe dans les airs, dans le feu, dans les forêts, au cœur de la terre. On les nomme fées, elfes, lutins, trolls, gnomes, sylphes, dryades. Certains sont ravissants, d'autres effrayants, nains rabougris ou géants démesurés. Les humains les trouvent aimables, inoffensifs ou cruels, alors qu'ils sont juste différents. Ils ont été créés par le dieu du monde ancien et le dieu d'aujourd'hui a décidé de les cacher aux yeux des hommes. Mais le voile qu'il a jeté sur leur vie est par endroits bien mince, si ténu que les regards de transperce si fragile que l'on peut le traverser. De tous les êtres des antiques royaumes, les plus gracieux et les plus beaux sont les ondins qui vivent sous les flots de la mer, les eaux des ruisseaux et des lacs, dans de merveilleux palais de cristal et de corail, de nacre et d'argent. Parfois, ils abordent la terre des hommes, des voyageurs isolés, des marins solitaires les ont rencontrés et gardent un souvenir ébloui de leur beauté, de leur peau si claire, de leur chevelure blonde et de leur voix exquise. Je suis l'une de ces ondines, venue vivre parmi les humains. Hildebrand croyait rêver, et pourtant, au fond de lui, il savait que sa belle épouse disait la vérité. Ondine se tut un instant, puis reprit plus doucement avec tristesse. Notre apparence et notre esprit nous rendent presque semblables aux humains, mais nous n'avons pas d'âme. Aussi, lorsque la mort nous prend après des siècles de vie, disparaissons-nous comme l'écume sur le sable. Durant notre vie, nous commandons à l'eau, puis un jour, l'eau nous reprend. Rien ne subsiste alors de nous, pas même un souvenir. Mon père, grand roi parmi les ondins, a voulu que j'échappe à ce sort. Il savait que seul l'amour d'un homme qui me prendrait pour épouse pourrait me donner une âme, donc l'immortalité. Je te parais tout à coup effrayante? Tu n'as qu'un mot à dire et je m'en irai rejoindre les miens, malheureuse mais immortelle. Il suffit que je me jette dans le ruisseau. Ce ruisseau qui, vois-tu, n'est autre que mon oncle, ce Kelborn dont je n'ai pas eu le courage de te parler tout à l'heure. Il est le maître de toutes les eaux des environs, même de celles qui courent sous la terre. C'est lui qui m'a amené ici, dans ma belle robe dorée. Car il connaissait la bonté de Grete et d'Albrecht. Il savait qu'en ces lieux isolés, nul ne s'inquiéterait de la venue d'une étrange enfant. C'est aussi pour cela qu'il a enlevé leur fille. Hildebrand l'a regardée, horrifiée. « Ne crains rien, » continua-t-elle. Il l'a emmenée bien loin d'ici, en un riche pays où elle a été élevée avec beaucoup d'amour. Ondine se tut de nouveau, les yeux pleins de larmes. « Écoute-moi encore. C'est mon oncle qui t'a conduit vers moi, guidant et effrayant tour à tour ton cheval à travers la forêt. » C'est lui également qui nous a enfermés dans le cercle des eaux, te forçant à rester près de moi. C'est toujours lui, tu le devines, qui a ajouté le pauvre père Ilman dans la tourmente pour qu'il nous unisse, et que la volonté de mon père soit ainsi accomplie. Oseras-tu me regarder, maintenant que tu connais ma nature, mon étrange famille et la manière dont mon oncle s'est servi de toi ? Lorsqu'elle se tut, Hildebrand sentit une grande certitude l'envahir, comme jamais de sa vie il n'en avait éprouvé. Il aimait Ondine, son cœur l'avait choisie au premier regard, dès qu'elle était entrée dans la chaumière, et le reste lui importait peu. Il serra la jeune femme dans ses bras, essuya ses larmes et lui jura, au milieu d'une pluie de baisers, un amour éternel.
schlocken am Oja Kokalatri, kaltü maitala tü peschmi.
Le lendemain, Ondine se leva à la première lueur de l'aube. À leur réveil, Grete, Albrecht, le père Elmein, Philippe Debrant, la trouvèrent dans la cuisine, occupée à préparer un délicieux repas. La vaisselle avait été rangée, le sol nettoyé, un feu crépitait dans la cheminée. La jeune femme se jeta au cou de ses parents et leur promit qu'ils ne manqueraient désormais de rien. Elle agita doucement qu'elle comprenait maintenant combien elle avait été cruelle envers eux et qu'elle voulait leur dire tout son amour avant de s'en aller avec son époux. Hildebrand rassura le vieux couple. L'heure du départ n'était pas venue, car le déluge de la veille avait encore dû grossir les eaux du ruisseau. Là, ils découvrirent que le cours d'eau était redevenu un calme ruisselé. Rien dorénavant ne leur barrait plus la route. « Mon oncle a tenu sa promesse », murmura la jeune femme à l'oreille du chevalier. Hildebrand guidait le grand cheval qui portait Ondine. Le père Elman, qui avait décidé d'accompagner les jeunes gens à travers la forêt obscure, les suivait à quelque distance. Ils avançaient à bonne allure, soucieux de se trouver hors d'atteinte des trolls et des kobolds avant la nuit. Soudain, le prêtre aperçut derrière eux un inconnu, habillé de blanc. L'homme était vêtu d'une vaste robe dont la capuche rabattue protégeait son visage des regards. Le père Elman pensa qu'il s'agissait d'un ermite. L'inconnu le détrompa rapidement. « Certes, je vis seul dans les bois et j'aime plus que tout errer à travers les futaies, revêtu de ma belle tenue blanche. Toutefois, je ne suis pas un ermite. » Si vous voulez savoir mon nom, apprenez que je suis le sire de Kelborn, le très puissant baron de ces eaux et de ces terres, venu dire quelques mots à cette jeune femme. Il s'approcha d'Ondine, qui tenta en vain de le repousser. Kelborn insista sans pitié. Sa taille augmentait à chaque mouvement de refus de la jeune femme. Le père Elman et Hildebrand semblaient ne rien voir. Furieux, Kelborn se mit à secouer violemment la jeune épousée qui poussa un grand cri. Hildebrand sortit enfin de sa rêverie et se précipita, épée levée sur le géant blanc, mais son arme s'abattit sur une cascade dévalant du haut du talus jusqu'au milieu du chemin. Le père Elman les rattrapa. « Je surveillais depuis un moment cette chute d'eau, » dit-il, « et je craignais qu'elle ne nous empêchât de passer. » Hildebrand prit Ondine, encore tremblante de peur, dans ses bras, et tous deux distinguèrent dans le champ de l'eau la voix de Kelborn, félicitant le chevalier d'avoir si bien défendu son épouse. Le père Elman, lui, n'entendit rien. Il marchait les yeux fixés vers l'extrémité du chemin, où dans la vaste plaine, le vent couchait les blés. Hildebrand de Rigstetten est de retour. La rumeur se répand à travers la ville jusqu'à la demeure ducale où Bertalda pleure depuis des semaines la disparition du chevalier qu'elle croit avoir envoyé à la mort par pure coquetterie. Très vite lui parut vient une autre nouvelle, beaucoup moins réjouissante. Hildebrand est revenu, en compagnie de sa jeune épouse et du prêtre qui les a unis. Tous ceux qui ont croisé la jeune femme évoquent sa beauté féerique, sa blondeur radieuse, son élégance, ses yeux lumineux, son tendre sourire et sa voix enchanteresse. Blessée dans son amour et dans son orgueil, Bertalda se doit toutefois de faire bonne figure et de fêter les jeunes mariés. Le soir même, elle donne un bal en leur honneur. Bien que parée comme une reine, elle ne peut rivaliser avec le charme surnaturel de l'éblouissante Ondine. Fasciné par la beauté de la jeune femme, le roi considère qu'il serait malvenu de l'interroger sur ses origines. Elle est de toute évidence princesse en quelque pays inconnu. Ondine ne veut plus mentir, cela salirait son âme toute neuve. Alors même si l'opinion du roi reflète une part de vérité, la jeune femme préfère se taire. Les semaines suivantes, Ondine ne se sépare plus de Bertalda, et la jeune duchesse se prend d'une réelle tendresse pour elle. Elle décide d'oublier qu'elle a longtemps rêvé du chevalier et s'attache à faire découvrir à l'épouse d'Hildebrand les subtilités de la vie à la cour. La fille des eaux ne voit pas en effet la nécessité de choisir un vêtement strictement approprié à chaque circonstance, de saluer selon leur rang des princes, ducs et comtes, ou de reconnaître une famille à la seule vue de son blason. Les tournois la rebutent, les lourdes robes alors à la mode lui semblent une prison, et elle repousse avec dégoût les cuirs et les fourrures. Mais si Ondine peine à s'habituer à la vie de cour, elle retrouve son entrain lorsqu'elle se promène dans les jardins ou que le roi lui demande de chanter. Dès que ses doigts se posent sur son luth, dès que sa voix s'élève, elle entre dans un monde enchanté où elle entraîne à sa suite tous ceux qui l'écoutent. Les jeunes gens qui s'empressent autour d'elle comparent ses chants à ceux des sirènes et s'amusent de la voir s'énerver en s'exclamant qu'il ne faut pas tout confondre. Les sirènes sont des personnes peu recommandables dont les hommes doivent se garder. Hildebrand a rempli ses devoirs auprès du roi. Il est maintenant impatient de regagner ses montagnes et son château, près de la source du Danube. Quand elle apprend leur départ imminent, Ondine ne peut retenir ses larmes à l'idée d'être séparée de sa chère Bertalda. Son mari est tout son univers, et s'il exige qu'il parte, elle acceptera. Mais elle serait si heureuse, lui avoue-t-elle, si sa seule amie les accompagnait, au moins le temps qu'elle, Ondine, si ignorante, apprenne à diriger le château. Bertalda, craignant de perdre ceux qu'elle aime le plus au monde, ne cesse aussi de montrer sa tristesse. Alors un soir, dans le parc du château, près des fontaines dont le roi est si fier, Hildebrand annonce à Bertalda qu'elle est invitée à Rijkstetten aussi longtemps qu'elle le souhaitera. La jeune fille se jette au cou du chevalier pour le remercier. Au même instant, les jets d'eau des fontaines s'élancent vers le ciel à une hauteur telle que toute la cour se met à applaudir. Puis les applaudissements retentissent, plus les panaches aquatiques, pris de frénésie, fuse vertigineusement et retombe en une épaisse écume blanche. Libéré de l'étreinte de Bertalda, Hildebrand prend Ondine par la main et l'entraîne vers les bassins pour mieux profiter du spectacle. Celui-ci s'arrête aussitôt. Dans la douce nuit étoilée, Ondine, Hildebrand et Bertalda flânent dans les allées de sable blanc. Distraite par un vol d'éphémère, Ondine marche un peu à l'écart. Soudain, un homme de haute taille s'avance vers elle et la tire à l'ombre des tilleuls. Tous deux se lancent dans une conversation animée, rageuse même, dans une langue inconnue. Leur échange ne dure que quelques minutes. Puis Ondine se dégage vivement et rejoint son mari et Bertalda, qui ont assisté à la fin de la scène. La duchesse est curieuse de savoir d'où son amie peut connaître le maire fontainier du roi. Quel maître fontainier ? L'interrompt Hildebrand. L'homme qui s'éloigne, vêtu d'un costume blanc, ne porte-t-il pas l'uniforme des fontainiers ? Hildebrand se précipite sur les traces de l'inconnu. Arrivé devant les bassins, celui-ci disparaît de sa vue comme s'il s'était dissous dans les eaux. Touché par un funeste pressentiment, le chevalier revient aussitôt vers Ondine, presque évanouie, dans les bras de Bertalda. À l'endroit où elle s'est entretenue avec le fontainier, s'étale une large flaque d'eau. Assise sur son lit à baldaquin, Ondine pleure silencieusement. Hildebrand vient de lui confier sa colère de voir Kelborn les poursuivre sans cesse. Il refuse que le génie des eaux trouble leur vie et s'attaque sans raison à Ondine. « Il a une raison, » murmure la jeune femme. « Mon oncle Kelborn prend parfois une apparence humaine. Il ne comprend pas pour autant les comportements des hommes et des femmes. Pour lui, le monde est noir ou blanc, bon ou mauvais. Il ne connaît ni les nuances ni les richesses du corps humain. « Je ne les connaissais pas non plus avant de gagner ton amour, » ajoute-t-elle tendrement. Il a vu Bertalda t'embrasser et sa colère a fait bouillonner les fontaines. Il a vu ensuite marcher à tes côtés alors que je m'étais éloignée de vous et il a cru que tu me délaissais. « Était-ce une raison pour venir t'effrayer ? De quoi t'a-t-il menacé ? J'ai vu ton visage, je sais que tu as ressenti une peur intense. »« C'est pour toi que j'ai eu peur, mon bien-aimé, car il a menacé de me venger de ce qu'il croit être ton infidélité. » « Je ne crains rien pour moi-même, mais je ne peux supporter que l'on menace l'amour de ma vie. »« Ondine, je suis un homme de guerre. Je sais me battre. »« Tu as déjà vu la puissance de mon oncle. »« Aucune épée ne peut venir à bout d'une inondation, d'une tempête ou d'une vague ravageuse. »« Rien ne peut l'arrêter, » répète-t-elle sombrement. » Pourtant, après un court silence, Ondine reprend, le visage radieux. « Quelle chance ! Je viens de me rappeler que dans sa mauvaise humeur, mon oncle s'est brouillé avec les esprits des eaux qui entourent Rijkstetten. Seul le Danube lui est encore favorable. Or, il coule à plusieurs lieues du château. Partons-y vite et nous serons ainsi débarrassés de lui.
Ich rieb's mit der Hand am Himmel schwarz und blöd. Die Sterne streien Sand.